Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une relecture de Hélène Fleur de Soufre, écrite par Julie de Russie, parue aux éditions Dominique Leroy, où on peut entendre un extrait, en fait, dans un podcast que j'ai fait sur Podcloud. Vous le retrouvez tout en bas, c'est un des premiers, en fait. Et en réécoutant le podcast, pour pas enregistrer le même extrait, évidemment, je me suis aperçue qu'un des livres de la collection relecture des mythes et légendes de Dominique Leroy, que j'avais déjà lu, qui s'appelle « Légendes érotiques arthuriennes », eh ben ce livre-là n'avait plus de podcast du tout. Donc, c'est une relecture oui et non. Moi déjà, j'ai relu avec plaisir ce livre. Et du coup, vous ne l'avez jamais entendu. Donc, je me suis dit, mais je ne peux pas quand même passer à l'as ces légendes érotiques arthuriennes. Donc, c'est toujours chez les éditions Dominique Leroy. Et là, en fait, on a deux autrices, puisqu'en fait, le livre est composé de deux nouvelles, Julie de Russie et Clarissa Rivière. C'est illustré par Tonino Della Bianca. Et surtout, on plonge en plein dans l'univers des chevaliers de la Table Ronde. Arthur, Lancelot, Guenièvre, Merlin, Viviane, etc. Les autrices ont fait leur version bien à elles des légendes de la Table Ronde. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans chaque nouvelle, on trouve à la fois de l'érotisme, il n'y a pas de souci, ça baise dans tous les sens, croyez-moi, c'est charnel, mais il y a aussi une petite once de culpabilité qui traîne hein, et qui fait que les personnages, ils se carrent un petit peu tout seuls en fait. C'est Merlin qui est complètement dingue de Viviane, mais d'un coup, il ne faut pas, tu comprends, et il se barre. Et à chaque fois, il se barre. Et Viviane, elle a dit, mais reste, mais il faut finir le truc, quoi. Et bon, finalement, à la fin, il se dit que bon, finalement, il va peut-être rester. Et alors, l'autre nouvelle, qui s'appelle Pour l'amour de son roi, de Clarissa Rivière, là, c'est les relations entre Lancelot, Guenièvre et Arthur. Et croyez-moi, fou, ça s'ennuie pas, hein, c'est des relations très intimes. Mais du coup, culpabilité, je m'enfuis, je m'échappe, on ne me verra plus jamais. Après, Arthur se retrouve piégé, tout ça, pas Arthur Lancelot, quel bordel quoi. Donc, je vais vous lire des extraits de ces nouvelles. Et puis, moi j'ai choisi des parties un peu plus érotiques, hein. La morale, ça me fatigue. Mais par contre, c'est très intéressant de découvrir ça dans ces bouquins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les autrices ont réussi à concilier les deux et à faire en sorte qu'à un moment donné, il faut raison garder. Il faut raison garder, non pas pour obéir à la morale et au dogmatisme absolu. Il faut juste se poser la question de « Alors attends, je suis en train de me juger, de culpabiliser pour un truc où au final, je fais de mal à personne. Au final, tout le monde est plutôt content. » Ça part du corps, c'est joyeux, mais d'un coup, non, il faut pas, tu comprends. Mais les règles de la morale ont été mises en place par qui, en fait? Et qui a dit que de s'aimer à trois, c'était mal? Et en fait, qui ça va emmerder? À part, en fait, on sait pas qui, hein, des gens qu'on ne connaît pas, qui ont établi des règles pour je ne sais quelle raison. Et en fait, si on se sert de son petit cerveau, on se rend compte que on n'est pas obligé de s'interdire des choses, de se juger, de se fustiger pour obéir à des règles complètement iniques qu'on n'était même pas là quand elles ont été décidées, quoi. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait du bien de relire ces nouvelles parce que je me suis dit, on a tous des moments hein, dans la vie où on s'emmerde dans nos vies perso, où on s'emmerde la vie avec la morale. Et ça m'a fait du bien en me disant, oh là là, ma petite Charlie. Eh ben, quand à des moments encore ça revient, sers-toi de ta tête. Pas pour partir au taquet dans le « Oh là là, mon Dieu, c'est mal !» Non, 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 pas pour ça. Tu t'arrêtes et tu te dis « Alors attends, c'est mal, mais c'est quoi qui est mal en fait ?» Et on voit que la seule chose qui est offensée, ça peut être éventuellement notre ego, ou alors c'est un truc, c'est même pas nous en fait. C'est l'image, je sais pas moi, d'une vieille grand-mère, d'une vieille tante, d'un curé qui t'a dit « Oui, c'est mal !» Et croyez-moi, ce n'est qu'une image, parce qu'il y a des curés qui sont pas du tout comme ça et que là, je suis en train de partir sur un autre sujet. Voilà, on va s'arrêter, on va passer à la lecture parce que là, ça va partir en vibrine. Hein. Moi, je m'emballe. Spéciale dédicace d'ailleurs à un curé qui disait « la foi est une fête hein. ». Donc, écoutez, si le corps est en joie et fait la fête, pourquoi pas? Alors, le premier extrait, c'est extrait de la nouvelle écrite par Julie de Russie qui s'appelle « La demoiselle du lac ». Merlin a vu Viviane se baigner nue, elle lui a complètement tapé dans l'œil, il s'est approché, il l'a embrassé, il lui a pas dit son nom et il s'est enfui parce qu'il s'est dit « Oh là là, putain, c'est pas bien !» Voilà, un petit peu de morale. Mais, que se passe-t-il après ? Extrait de La Demoiselle du Lac de Julie de Russie. Un an avait passé. Viviane n'avait pas oublié son premier baiser. Longtemps, elle avait cru qu'il reviendrait, qu'il achèverait ce qu'il avait commencé. Elle le gronderait, l'accablerait de reproches amers, avant de se laisser de nouveau embrasser, charmer, ensorceler. Elle rêvait la nuit de ce flux de magie qu'il avait traversé, de ce désir qu'il avait embrasé. Elle serait comme lui, elle le savait. Les éléments lui obéiraient. Et puis l'hiver était venu. Le lac avait gelé et Viviane avait compris qu'il ne reviendrait pas. Il ne la délivrerait pas de cette existence banale qui l'étouffait. Il n'éveillerait pas les pouvoirs qui, elle le pressentait, sommeillait en elle. Elle ne connaîtrait jamais son nom. Lorsque revint le printemps, Viviane, mélancolique, retrouva la fraîcheur des baignades. La reverdie ne l'égayait pas. Elle lui rappelait trop ce qu'elle avait espéré et qui ne serait pas. Les bourgeons semblaient la narguer, les oiseaux batifolants achevaient de l'exaspérer. Elle ne se baignait plus jamais nue à présent. Elle se souvenait trop de celui qui l'avait épiée. Son père avait raison. Des hommes rôdaient dans les bois. Il ne fallait pas leur accorder les joies qu'ils réclamaient. Comme elle était jolie, Viviane, dans les transparences de sa chemise, étreinte par l'eau du lac. Ses cheveux, d'un brun tirant sur le roux, flamboyaient autour de son visage, avant de s'assombrir au gré de l'onde. La chemise soulignait son indécence plutôt qu'elle ne cachait son corps. Elle moulait délicieusement ses formes, révélant la courbe de ses seins, la finesse de sa taille et la rondeur de ses fesses, tandis que ses longues jambes se mouvaient en cadence. Et sous les longs cils perlés d'eau, ses prunelles paraissaient liquides, donnaient envie de s'y noyer. C'est ainsi qu'elle lui apparut. Elle était pareille et pourtant différente, moins nue, moins innocente, toujours aussi belle. C'était l'été. Une chaleur pesante, étouffante l'avait conduit dans cette forêt, auprès de ce lac où il avait juré de ne plus aller. Le ciel, d'un gris plombé, était traversé de rayons d'or. Dans les yeux de Viviane, il vit l'orage sur le point d'éclater. Il en fut si ému qu'il ne put bouger au début. Il resta là, figé, statufié, à la contempler tandis qu'elle émergeait des eaux. Quand elle l'aperçut, elle resta une seconde incrédule avant de s'approcher pour le toucher, s'assurer qu'il était réel. Merlin avait repris l'apparence qu'il avait lors de leur dernière rencontre, une beauté virile de grand faune aux yeux fauves. Pour elle, il était éternellement jeune. Il se laissa effleurer avec l'envie de se jeter sur elle, de la posséder enfin. Mais déjà elle s'était reculée. Le gris de son regard s'assombrissait encore. « Je croyais que tu ne reviendrais pas, » déclara-t-elle. « Tu savais que je reviendrais, » répondit-il sûr de lui. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Tu le sais bien, Viviane. » Quand elle l'entendit l'appeler de ce prénom qu'elle lui avait donné sans réfléchir, la colère de Viviane ne connut plus de bornes. Elle ne le laisserait pas asseoir sa domination sur elle. S'il la voulait, il lui faudrait payer le prix. Elle aussi, elle savait très bien ce qu'elle voulait. « Comment t'appelles-tu ? » demanda-t-elle. Sa voix était inhabituellement dure, presque tranchante. Merlin, répondit-il. Il était inutile de résister à la demoiselle du lac. Il se sentait ému, étrangement attiré par cette nouvelle facette de la personnalité de Viviane. Et il lui venait des envies de s'abandonner, de se laisser prendre au filet de la belle, fût-elle cruelle. « Apprends-moi la magie, » ordonna-t-elle. « Si tu t'offres à moi, je t'apprendrai tout ce que tu voudras. » « Non, d'abord la magie, et je ne te donnerai pas ma virginité, » répliqua-t-elle boudeuse. « Eh bien, négocions. Que veux-tu faire et que m'accorderas-tu en échange ?» Viviane réfléchit un instant. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait demander. Elle regarda autour d'elle, cherchant l'inspiration. « Je veux faire naître un rosier, ici, près de mon lac. » Presque aussitôt, elle regretta. C'était trop facile. Après tout, n'aurait-elle pas pu planter le rosier, tout simplement? Elle aurait dû demander autre chose, quelque chose d'impossible. La prochaine fois, elle réfléchirait davantage avant de formuler son souhait. En attendant, il fallait le faire languir le plus possible. Merlin médita un instant avant de répliquer. « En échange, je veux t'embrasser, » déclara-t-il enfin. Elle eut un soupir de soulagement. Ce n'était que ça. Elle avait cru qu'il exigerait davantage. « Entre les cuisses, » ajouta-t-il. « Si tu ne me donnes pas ta virginité, je veux au moins la goûter. » Le désir tordit le ventre de Viviane en même temps que le rouge montait à ses joues. « Non. » Il la contempla, satisfait de la sentir troublée. Cette négociation l'amusait. Au fond, il le savait bien, tôt ou tard, il lui faudrait s'offrir. « Alors, je veux te voir nue, nue devant moi. » C'était comme une torture, l'imaginer nue, offerte, sans pouvoir la toucher, et il ne pouvait résister au désir de souffrir par elle. « Oui, » souffla-t-elle, et il eut envie de baiser l'incarnat de ses lèvres. Alors, il lui montra les gestes à effectuer, les pensées à mettre en œuvre. Il fallait poser les mains bien à plat sur les herbes de la rive, sentir la terre et les racines, rentrer en contact avec elle. Quand le souvenir du rosier serait bien implanté sous ses mains, elle devrait les relever, lentement, et la plante s'élèverait avec elle. Merlin souleva ses deux mains, les tiges percèrent la terre, les feuilles jaillirent, légères et tendres, au début, avant de grandir, de frémir parmi les épines, et ce fut le premier bouton de rose, tout blanc, encore fermé, exhalant déjà ses parfums dans la moiteur de l'air. Les mains de Merlin s'immobilisèrent, la croissance fabuleuse se suspendit soudain. Viviane, extasiée, contemplait le rosier, respirait ses effluves. « Veux-tu essayer ?»« Plus tard, » répondit-elle. Elle ne comprit pas pourquoi elle avait dit cela. Elle voulait en devenir magicienne. Mais un besoin plus fort, impérieux, s'était emparé d'elle. Elle voulait qu'il la regarde, lui, Merlin aux yeux fauves, l'homme qui commandait à la nature. Elle voulait qu'il fût à elle, tout à elle. Le rosier pouvait bien attendre. D'ailleurs, elle sentait déjà qu'elle réussirait, elle n'avait pas de doute. Les rayons du soleil avaient disparu. Le ciel, d'un gris de plomb, pesait plus que jamais sur la terre. Il faisait chaud, très chaud, et la lumière, étrangement, semblait émaner des eaux. Merlin regarda Viviane se déshabiller. Ce ne fut pas long. La demoiselle du lac ôta sa robe, révélant la peau pâle de ses jambes nues. Et puis, la chemise tomba, et il vit ses jeunes seins qui pointaient malgré la chaleur, la courbe de ses hanches, la toison fine au bas de son ventre, cachant son sexe qu'il devinait perlé de désir. « Allonge-toi et écarte les cuisses, » commanda-t-il. L'indignation la saisit en même temps que l'envie irrépressible de lui obéir. « Ce n'est pas ce que nous avions dit, » se rebella-t-elle. Une fournaise coulait dans ses veines. Le premier roulement de tonnerre résonna dans le ciel et le corps de Viviane fut éclairé d'une lumière blanche. « Je ne te toucherai pas. Je veux juste te voir tout entière. Allonge-toi, je t'en prie. » Frissonnante, elle s'exécuta. Avait-elle peur? Était-ce l'orage ou le désir? Elle n'aurait su le dire. Elle s'étendit sur la rive, tout près du rosier qu'il avait fait surgir pour elle, et ses yeux se perdirent dans le sombre du ciel, tandis que lentement, elle ouvrait les cuisses à son regard. Merlin n'avait jamais bandé si fort. Il s'agenouilla près d'elle, résistant au besoin terrible d'arracher ses propres habits pour s'enfoncer en elle. La chair rose de son sexe s'offrait à lui, rougissant dans les profondeurs, comme un coquillage fragile et vivant. Un peu de lait coulait, là, entre ses lèvres, trahissant son désir. Il se pencha pour mieux voir, eut envie de le boire. Son souffle effleura les chairs de Viviane. Elle tremblait à présent. Un second éclair traversa le ciel, illuminant violemment son intimité exhibée. En même temps, un frisson parcourut son échine. Sans s'en rendre compte, elle écarta encore davantage les cuisses, cambra ses reins. Il distinguait tout à présent. Le cercle de sa virginité et, un peu plus bas, l'anneau plus sombre entre ses fesses, émouvant lui aussi. Comme il serait bien en elle, enserré étroitement, éperdu de plaisir. Viviane sentait presque sur son sexe palpitant la caresse des doigts de Merlin, la chaleur de sa bouche. Qu'avait-il dit déjà? Qu'il voulait l'embrasser, là, entre ses cuisses? Pourquoi avait-elle refusé? Elle ne rêvait plus que de cela à présent, être touchée, et bien plus encore. Elle voulait être prise, aimée, déflorée. « Viens !» gémit-elle finalement, n'y tenant plus. Elle attendit, impatiente de sentir son poids sur elle. Rien ne se produisit. Lorsque Viviane se redressa, Merlin avait disparu. Il ne restait plus que le jeune rosier et son unique bouton blanc. Un troisième éclair zébra le gris du ciel. Un sanglot secoua Viviane. Elle s'agenouilla près du rosier, posa ses mains sur la terre et les éleva lentement. Alors, les branches se déployèrent, d'autres boutons surgirent tandis que les pétales blancs de la première rose s'épanouissaient, exhalant une fragrance violente avant de s'éparpiller sur le sol. Le ciel trop lourd creva enfin en une pluie chaude d'été. Les gouttes crépitèrent sur le lac, trempant les roses que Viviane avait fait naître et se mêlant aux larmes sur ses joues. Voilà comment le désir peut parfois créer la frustration, car il a disparu. Mais il va revenir, bien sûr qu'il va revenir. Si vous voulez voir, savoir, découvrir quand Merlin va revenir et comment et que va devenir leur relation, je vous invite évidemment à lire les légendes érotiques arthuriennes de Julie de Russie et Clarissa Rivière. C'est paru aux éditions Dominique Leroy. Ce sont des livres numériques, donc c'est un tout petit rikiki prix. Alors, je vais passer maintenant à la seconde nouvelle. J'hésite entre deux, hein, je suis en pleine hésitation, quoi. Mais en fait, je vais faire un petit passage un petit peu plus court, d'accord. Et justement, où on voit la honte qui arrive, alors qu'à un moment donné, il n'y en avait pas, quoi. C'était un, voilà, bon. Donc, le passage, c'est dans la nouvelle « Pour l'amour de son roi » de Clarissa Rivière. Arthur a mandé son fidèle compagnon Lancelot, son meilleur ami en qui il fait une totale confiance. Il lui a dit « Écoute, il faut que tu ailles quérir Guenièvre, une jeune fille que je ne connais pas, mais sur les conseils de Merlin. » Et oui, parce que en fait, les autrices ont écrit en complicité en fait. Donc une nouvelle et l'autre se répondent et sont pas complètement séparées. Donc Arthur envoie Lancelot quérir Guenièvre, la jeune fille qu'il doit épouser mais qu'il ne connaît absolument pas, en lui disant « Je compte sur toi pour protéger Guenièvre, il faut que tu t'occupes de la ramener, qu'elle soit en sécurité, etc. Voilà. Donc, Lancelot, il est dévoué à son roi, bien entendu. Du coup, il va chercher la damoiselle. Et il se trouve qu'elle est super jolie. Et la damoiselle, elle ne connaît pas Arthur. C'est un mariage arrangé au départ. Donc elle n'est pas amoureuse ni rien. Et elle voit Lancelot, ce blond chevalier, à l'œil, aux grands cils, etc. Et elle est totalement à fond, quoi. Donc, du coup, Lancelot, il a beau être fidèle en amitié, il se dit que quand même, il craque bien quand même pour la petite Guenièvre, quoi. Il craque même carrément. Et il dit non, mais là, je crois qu'elle est fatiguée. Il faut qu'on fasse une pause dans une auberge. Et dans une auberge, alors tous les hommes vont dormir dans le foin, mais lui se dit ouais, mais quand même, il faut quand même que je protège Guenièvre. Hein. Sait-on jamais s'il lui arrive quelque chose, quoi. Du coup, il dort dans la même chambre qu'elle. Et du coup, comment vous dire qu'ils s'envoient en l'air comme des gros cochons. Attention. Elle se fait seulement sodomiser, hein, parce que comme ça, elle garde sa virginité, parce que quand même, le roi, faut bien qu'il se rende compte que, hein, voilà. Et puis, il la ramène à la cour pour que Arthur et Guenièvre se rencontrent et se marient. C'est un petit peu compliqué quand même, parce qu'il a un petit peu baisé la femme du roi avant de le ramener, quoi. En termes de moralité, tout ça, on n'est pas bien, 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 quoi. Mais c'est pas grave. Donc ils arrivent à Camelot et là il se trouve que en fait, waouh, wow, autant Lancelot est blond, Arthur est aussi brun que ce que Lancelot est blond, mais il est tout aussi charmant et il y a comme un petit coup de foudre quoi. Et du coup ça va être la nuit de noces, mais elle va être un petit peu particulière. Allez, c'est parti. Un extrait de la deuxième nouvelle des légendes érotiques arthuriennes. Cette nouvelle s'appelle Pour l'amour de son roi et elle est écrite par Clarissa Rivière. C'est parti. Le lendemain, Guenièvre aperçut la première les hautes tours de Camelot. Ils arrivaient bientôt. Elle se pelotonna sur ses coussins, le cœur déchiré, et ravala ses larmes. La parenthèse enchantée avec son chevalier touchait à sa fin. Elle se sentait comme morte. Elle marcha à la rencontre du roi sans ressentir la moindre émotion. Arthur lui baisa la main pour lui souhaiter bienvenue. Ce chaste baiser réveilla Guenièvre de sa torpeur. Elle le regarda mieux. Il était très différent de Lancelot, plus petit, très brun. Il la contemplait de ses yeux rieurs et brillants d'intelligence. Elle fut conquise sur-le-champ et lui rendit son sourire. Qu'il était charmant, son futur époux. Voilà une heureuse surprise. Il se montra galant et plein d'esprit, la faisant rire aux éclats. Très vite, elle les aima tous les deux autant l'un que l'autre, le preux chevalier et le courageux monarque. Le généreux Lancelot lut dans leurs yeux leur coup de foudre réciproque et se réjouit de leur bonheur. Il n'était pas étonné. Comment ne pas aimer d'emblée cette douce demoiselle et ce valeureux roi? Il les couvait de son regard protecteur et soupirait. Son temps était fini. Il allait devoir se sacrifier, s'effacer pour ne point troubler leur union. Arthur croisa le regard de son chevalier préféré et lui sourit. En réalité, le roi avait tout de suite deviné qu'il s'était passé quelque chose. Le regard fuyant de son ami si loyal et si franc d'habitude lui avait fait suspecter une idylle. Soupçon confirmé quand il surprit sa douce, regarder Lancelot avec adoration. Il ne leur en voulut point. Il avait recommandé à Lancelot de ne point quitter Guenièvre une seconde, de la protéger, et le bougre avait pris son rôle au pied de la lettre. Sa fiancée était si désirable et si naïve. Son mariage avec elle était de raison avant tout. Arthur ne la connaissait pas encore, alors qu'il avait partagé tant d'aventures avec Lancelot déjà, son ami si dévoué qu'il aimait en secret, d'un amour pudique et viril, qui pourrait peut-être s'exprimer enfin par l'entremise de sa jeune promise. Arthur fut d'autant plus rassuré sur la loyauté de son ami qu'il déflora Guenièvre lors de leur première nuit. Il fut ému par ses pleurs et le sang qui coula entre ses jambes et la câlina tendrement. Il l'avait forcée comme un soldat, voulant abréger l'épreuve, et l'avait blessée sans doute, car Guenièvre sanglotait toujours. Pour la consoler, il fit venir Lancelot. Le jeune chevalier les rejoignit au milieu de leur nuit de noces, le cœur battant, prêt à tout pour satisfaire son roi et plaire à sa reine. Il comprit en voyant le sang sur les draps et la petite reine en pleurs. Arthur lui ordonna de se déshabiller et de la réconforter. Il prit même la main de son ami et la posa sur le sein rond de Guenièvre. Les deux hommes échangèrent un regard et Arthur donna sa bénédiction d'un hochement de tête. La main de Lancelot tremblait un peu en caressant Guenièvre devant son époux, mais son sexe, lui, reconnaissait le corps aimé et se dressait déjà. Les larmes de Guenièvre se tarirent instantanément. Elle se jeta dans les bras de Lancelot et le couvrit de caresses et de baisers, sous le regard bienveillant de son mari, dont le sexe se levait à nouveau devant la vision de ces deux corps enlacés. Lancelot, encouragé par la main même du roi, se coucha sur la jeune femme et pénétra son sexe tout neuf, la faisant soupirer d'aise. Arthur sourit. Il avait pris la bonne décision. Ces deux-là étaient faits pour s'aimer. Guenièvre et Lancelot eurent au fait d'oublier le roi, tout à leur bonheur de faire l'amour. Leurs ondulations prenaient de l'ampleur, et Arthur en profita pour caresser Lancelot à sa guise. Son vaste dos, ses fesses en mouvement, le sillon sombre au creux de ses fesses et, plus bas, le sexe pilonnant sa bien-aimée avec vigueur. Lancelot, le désir fouetté par ses caresses d'un genre nouveau, baisait Guenièvre de plus belle et gémissait sous les doigts qu'il explorait. Arthur n'hésita plus. Il se mit à genoux, se colla contre le bassin de Lancelot et enfourna son sexe entre ses fesses, se joignant aux oscillations et aux gémissements du couple, calant son rythme sur le leur. Guenièvre, écrasée sous le poids des deux hommes, respirait à peine et jouissait sans retenue. Son amant se détourna d'elle un instant pour se consacrer à son roi, et elle en profita pour s'extraire et reprendre son souffle. Elle se perdit dans la contemplation de leur étreinte. Ils étaient magnifiques. Dans leur égarement et la folie du moment, Arthur et Lancelot s'étaient trouvés. Ils ne se quittèrent plus, se prirent et s'aimèrent, se donnant l'un l'autre du plaisir dans un emmêlement de corps, encouragés par le regard heureux de Guenièvre. La jeune reine se surprit à rêver qu'ils étaient beaux ainsi à s'agiter l'un sur l'autre, leurs corps musclés mélangés, leurs sexes bandés disparaissant dans leur bouche, leur corps. Elle se joignit au couple, les caressa au hasard, les lécha tour à tour, tandis qu'ils se prenaient sans fin. Elle les aimait autant l'un que l'autre et jouissait de les voir s'unir. Pourquoi ne pourrait-il pas vivre ainsi pour l'éternité, régner en journée et s'aimer toutes les nuits? Bientôt, elle fut incapable de penser. La bouche d'Arthur, collée contre son sexe, se mit à l'embrasser de telle façon qu'il réveilla son bouton de plaisir qui s'érigea, rose et brillant, cherchant la douce langue du roi. Lancelot les dominait de toute sa hauteur. Comme il était beau, à genoux derrière Arthur, allant et venant puissamment en lui, suant, soufflant et s'oubliant en murmurant des paroles d'amour passionnées pour son roi comme pour sa reine. La vision était trop forte. Guenièvre gémit à son tour et explosa de plaisir dans la bouche de son époux, tandis que Lancelot inondait son roi et ami de sa semence tiède. Une puissante odeur de sperme emplit la pièce et affola Guenièvre. Elle accueillit Arthur sur son ventre. Il la pénétra facilement tant elle était trempée déjà de sa salive et son nectar. Il ne tarda pas à jouir dans le corps de sa reine. Ils s'abattirent tous les trois sur le lit, rompus, et s'abîmèrent dans un profond sommeil. Au matin, pris de honte, Lancelot et Arthur ne purent se regarder et se séparèrent sans un mot. Lancelot, submergé par la culpabilité, voulut partir aussitôt, ignorant les pleurs et les supplications de Guenièvre. Il décida de se racheter en accomplissant 1000 prouesses, en trouvant le Graal peut-être, s'il en redevenait digne. Le roi lui-même ne put le ramener à la raison. Ses protestations d'amitié furent repoussées. Lancelot se contenta d'accepter sa bénédiction. Il pouvait repousser son ami, mais pas le pouvoir divin qui s'incarnait dans son roi. En s'agenouillant, il se mit à trembler d'humilité, de vénération, troublé par le souvenir de leur nuit. Malgré lui, des images surgissaient dans son esprit alors que son nez se retrouvait à hauteur de la taille du roi. Il ne pouvait empêcher ses narines de palpiter à la recherche des odeurs qu'il avait tant aimées aux petites lueurs de l'aube. Il ploya la tête, honteux des désordres de son cœur. L'heure était à la rédemption. Voilà, c'était donc un extrait de la nouvelle de Clarissa Rivière, Pour l'amour de son roi, qui nous raconte un petit peu la rencontre entre Guenièvre, Arthur et Lancelot. Et c'est pas fini, c'est loin d'être fini pour la suite de ces aventures. Je vous invite donc à vous offrir le livre Légendes érotiques arthuriennes de Julie de Russie et de Clarissa Rivière. Tout petit prix, puisque c'est un livre numérique. Je vous mets le lien sur mon site, évidemment, lec.charlie-liveshow.com. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu de relire ce livre. Et ce truc-là, cette culpabilité, je voulais vous mettre ce petit passage-là, où on se dit, mais en fait, tu culpabilises du désordre de ton cœur, mais en fait, tout le monde est bien. Ils s'aiment tous les trois, ça pose de problème à personne. Et qu'est-ce qu'on se prend la tête, quoi? Alors, je vous invite à lire le livre pour voir comment tout ça se résout. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver chaque semaine pour vous susurrer des histoires érotiques. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je susurre aussi des histoires pas érotiques. Enfin, quoique, il y a une fois où ça parlait de sexe. Hein, c'était un podcast sur Dario Fo et Franck Caramé qui s'appelle Un peu de sexe, juste pour vous être agréable. Mais bref, on n'est pas sur le format de l'érotisme. Par contre, je vous raconte des histoires également. C'est mon autre podcast qui s'appelle La Passerelle, le zen. Si vous voulez découvrir des histoires non érotiques, je vous invite à venir écouter. Mais nous, là, entre nous, ce qui nous occupe, c'est les histoires érotiques de Charlie. Et malheureusement, l'épisode touche à sa fin. Oui, je sais, c'est dur. Non, ne pleurez pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas, car vous avez des heures et des heures de podcasts érotiques disponibles sur mon site. Je vous rappelle l'adresse lec.charlie-liveshow.com. Vous pouvez tous les retrouver sur mon site. Vous pouvez d'ailleurs également laisser des commentaires, puisque c'est vrai qu'en podcast, on ne peut pas laisser de commentaires par mon site. Vous le pouvez. Prenez soin de vous. Mettez un petit coup de pied à la morale, hein. Occupez-vous juste de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous met en joie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. À très vite.